Chapitre 4. Un marché. Perrine fit reculer Trotteur pour qu'il soit sous le couvert des arbres, puis il observa la vaste prairie où des fleurs sauvages rouges et bleues pointaient leurs corolles au milieu de l'herbe que le manteau de neige désormais disparu avait aplani jusqu'à en faire un tapis jaunâtre. Dans le bosquet, derrière lui, les lauréoles avaient conservé leur feuillage. Les copalmes, en revanche, aborderaient le printemps avec des branches quasiment dénudées. Trotteur racla le sol de ses sabots avec une impatience que Perrine partageait, même s'il n'en laissait rien paraître. Depuis près d'une heure, il attendait, et le soleil était à présent juste au-dessus de sa tête. Soufflant de l'ouest, une brise balayait la prairie et venait lui caresser le visage. Une sensation agréable. Régulièrement, la main gantée du jeune seigneur caressait une branche presque droite coupée sur un chêne. Plus épaisse que son avant-bras et au moins deux fois plus longue, elle reposait en travers de la selle, juste devant lui. Sur une moitié, il avait retiré l'écorce pour obtenir une surface dure et lisse. Entourée de chênes, de lauréoles et de pins géants, sans oublier quelques copalmes plus petits, la prairie faisait à peine 600 pieds de large et un peu plus de long. La taille de la branche devrait convenir. Pour toutes les possibilités qu'il avait envisagées, elle ferait l'affaire dans une majorité de cas.
« Première dame, » dit Galen pour la énième fois, « vous devriez retourner au camp. »
Agacé, l'officier frotta nerveusement le bandeau rouge qui lui cachait un œil. Accroché au pommeau de sa selle, son casque à plumet rouge le laissait pour une fois tête nue, sa crinière grisonnante venant mourir sur ses épaules. Devant Berelein, racontait-on, il lui était arrivé d'affirmer qu'il lui devait chacun de ses cheveux blancs. S'avisant que son destrier noir essayait de mordre Trotteur en douce, il tira sur ses rênes, sans détourner un instant le regard de sa protégée. Dès le début, il lui avait déconseillé de venir.
Grady pourrait vous raccompagner puis nous rejoindre. Quant à nous, nous attendrons de savoir si les Séanchaniens daignent se montrer.
Capitaine, je ne bougerai pas d'ici.
Comme toujours, le ton de Berelein combinait la fermeté et le calme. Mais sous son odeur coutumière de patience, Perrine captait un rien d'inquiétude. En d'autres termes, elle n'était pas aussi sûre de son fait qu'elle voulait le faire croire. Pour cette expédition, elle avait choisi de porter un parfum léger aux arômes floraux. En d'autres circonstances, Perrine aurait tenté de déterminer sa composition. Aujourd'hui, il était trop concentré pour s'amuser à ça. Si son visage sans âge d'Aes Sedai restait aussi impassible que d'habitude, la vexation perçait dans l'odeur d'Anoura. Mais ça n'avait rien de nouveau. Cette aigreur était présente chez elle depuis sa querelle avec Berelein, entièrement sa faute, puisqu'elle avait rendu visite à Massema sans en informer la souveraine. À part ça, elle avait également conseillé à Berelein de ne pas venir. La monture d'Anoura approchant de sa jument blanche, Berelein lui fit faire quelques pas de côté, sans daigner accorder un coup d'œil à sa conseillère. La vexation monta en flèche. La robe de soie rouge richement brodée de Berelein dévoilait plus sa poitrine que d'habitude, du moins ces derniers temps. Cela dit, un large collier de pierres de lune et d'opale évitait ce qui aurait été sinon un attentat à la pudeur. À la taille, la jeune beauté portait un large ceinturon incrusté de pierreries où pendait une dague au manche ornementé. La couronne de Mayenne, fine et étroite, était placée de telle façon que le faucon d'or aux ailes déployées soit juste au milieu du front de la dirigeante. Comparé au collier et au ceinturon, ce bijou paraissait presque ordinaire. Une jeune beauté, assurément. Plus belle encore aux yeux de Perrine, depuis qu'elle ne le harcelait plus. Mais très loin du niveau de Fail, bien entendu. Si Anoura portait une robe d'équitation grise très ordinaire, presque tous les autres membres de l'expédition étaient sur leur 31. Pour Perrine, ça se traduisait par une veste vert sombre rehaussée de broderies d'argent sur les manches et les épaules. Par nature, il n'aimait pas les vêtements trop chics. Ceux qu'il avait, c'était Fail qui l'avait enquiquiné, gentiment quand même, pour qu'il les achète. Aujourd'hui, il l'en remerciait, car il aurait besoin d'en imposer. Et si son ceinturon banal gâchait les faits, eh bien, il faudrait faire avec.
« Il faut qu'elle vienne !»
grommela Arganda. Petit et trapu, le premier capitaine d'Aliandre avait gardé son casque argenté orné de trois plumes blanches. Perché sur sa monture, il tirait sans cesse sur son épée, la faisant jaillir un peu du fourreau, comme s'il s'attendait à devoir conduire une charge. Avec son plastron lui aussi argenté, il devait être visible à des lieues à la ronde.
« Il le faut !»«
Le prophète affirme qu'elle ne viendra pas !»
maugréa Aram. Il talonna son cheval gris et se mit à hauteur de Trotteur. Jaillissant de sous sa veste rayée de vert, le pommeau en forme de tête de loup de son épée saillait entre ses omoplates. Par le passé, Aram était presque trop beau pour un mâle. À présent, ses traits se durcissaient de jour en jour. Les yeux enfoncés dans leurs orbites et les lèvres pincées, ils semblaient en permanence irrités et hagards.
« Oui, selon le prophète, elle vous fera faux bond. À moins que ce soit un piège. Il est catégorique. Nous ne devons pas nous fier aux Séanchaniens. »
Perrine ne dit rien, mais il n'en pensa pas moins à ses remontées contre l'ancien Zingaro. Balwer l'avait averti qu'Aram passait trop de temps avec Massema. À première vue, il avait paru inutile de lui ordonner de ne pas raconter au prophète tout ce que faisait le seigneur Aibara. Eh bien, même s'il n'y avait jamais moyen de remettre un œuf dans sa coquille, Perrine se montrerait moins confiant à l'avenir. Un bon forgeron devait connaître ses outils et s'efforcer de ne jamais les casser. Avec les gens, c'était pareil. Quant à Massema, il devait surtout redouter qu'on découvre ses petits arrangements en cours avec les Séanchaniens. Même si la plupart de ses membres resteraient à couvert du bosquet, l'expédition était des plus étoffées. Derrière l'étendard de Mayenne, le faucon d'or sur champ d'azur, 50 gardes ailés paradaient dans leur plastron rouge. Un casque de la même couleur sur le crâne, ils tenaient à la verticale leur longue lance à pointe d'acier. À côté d'eux, 50 lanciers du Géaldan, reconnaissables à leur casque conique vert foncé, attendaient derrière l'étendard aux 3 étoiles d'argent sur fond rouge de leur patrie. Ces guerriers avaient de quoi impressionner, il fallait l'avouer. Pourtant, à eux tous, ils étaient beaucoup moins dangereux que Djurgradi, qui semblait bien terne avec sa veste noire ordinaire au col orné d'une épée d'argent miniature. Que les soldats en soient informés ou non, Grady, lui, avait conscience de sa force. Du coup, il se tenait près de son hongre gris avec l'assurance d'un homme qui prend un peu de repos après une rude journée de travail. En comparaison, Leof Thorfinn et Todd Alcahar, les seuls gars de Deux Rivières présents officiellement, gigotaient d'impatience sur leur selle. Très fiers d'avoir été choisis, ils auraient peut-être déchanté, en apprenant que c'était à cause de leur corpulence, plus que de leurs autres qualités. En effet, les deux vestes vert foncé d'emprunt leur allaient comme du sur-mesure. Sur des hampes un peu plus longues que les lances, Léof brandissait l'étendard à la tête de loup de Perrine et Todd l'aigle rouge de Manéthéren. Pour décider de cette répartition, ils en étaient presque venus aux mains. Pas parce qu'aucun n'avait envie de porter ses couleurs, espérait le jeune seigneur. Probablement pas, puisque Léof semblait très content et Todd carrément extatique. Bien entendu, il ignorait pourquoi Perrine avait emporté le second étendard. Dans toute négociation, selon le père de Matt, il fallait faire croire aux gens d'en face qu'ils s'en tiraient avec des avantages en plus. Comme chaque fois qu'il pensait à Matt ou à Rand, des couleurs tourbillonnèrent dans la tête de Perrine. Puis, fugitivement, il crut voir le jeune flambeur parler avec une petite femme noire. Une image à oublier. Pour l'heure, seul le présent comptait. Et le présent, c'était Fail.
Elle viendra,
affirma rageusement Arganda en foudroyant Aram sous la visière de son casque. À croire qu'il s'attendait à un défi.
Et si tu te trompes?
Demanda Galen, son œil unique brillant autant que les deux réunis d'Arganda. Son plastron laqué de rouge n'était pas plus discret que celui d'Arganda, qui brillait au soleil comme une balise. Mais essayer de convaincre ces deux hommes de peindre en mat la pièce majeure de leur équipement aurait été du temps perdu.
Et si c'est vraiment un piège?
Grogna Arganda. On eût dit le cri rauque d'un loup. Cet homme était à bout de patience. Une odeur d'équidée vint titiller les narines de Perrine un peu avant qu'il entende des cris de mésange bleu, trop lointains pour que quiconque d'autre puisse les capter. Ces signaux montaient d'entre les arbres qui entouraient la prairie. Peut-être inamicaux, des cavaliers venaient d'y entrer en grand nombre. Peu après, d'autres cris retentirent.
« Les voilà !»
annonça Perrine, ce qui lui valut des regards intrigués d'Arganda et de Galen. Autant que possible, il essayait de garder le secret sur sa vision et son ouïe amplifiée. Mais à force d'impatience, les deux officiers semblaient sur le point de se sauter à la gorge. Les trilles se firent plus proches, et tout le monde les entendit. Aussitôt, Arganda et Galen passèrent en mode méfiance.
« Si ça risque d'être un traquenard, »
lâcha Galen,
« je refuse d'exposer la première dame. »
Dans l'expédition, tous savaient ce que signifiaient les signaux.
« Capitaine !»
intervint Berelaine, brûlant la politesse à Perrine.
« C'est à moi de décider. »«
Votre vie est sous ma responsabilité, »
rappela l'officier. Agacé, Berelaine prit une grande inspiration, mais cette fois, Perrine fut plus rapide.
« Si piège il y a, j'ai déjà expliqué comment nous le désamorcerons.
Vous savez à quel point les Séanchaniens sont soupçonneux. Très vraisemblablement, ils craignent que nous leur ayons tendu une embuscade.
Galen se racla bruyamment la gorge. Dans l'odeur de Berelaine, Perrine sentit la patience faiblir, mais la jeune femme se ressaisit.
« Tu devrais l'écouter, capitaine, »
dit-elle avec un sourire pour Perrine.
« Il sait ce qu'il fait. »
À l'autre bout de la prairie, des cavaliers apparurent et tirèrent sur leurs rênes. Même de loin, Talanvor se révéla très facile à reconnaître. En veste noire, c'était le seul homme qui ne portait pas une armure rayée de rouge, de jaune et de bleu. Deux femmes le flanquaient, l'une en robe bleue rayée de rouge sur le corsage et la jupe, et l'autre en gris. Entre elles, une espèce de chaîne brillait sous les assauts du soleil. Une Suldane et sa Damane, donc. Durant les négociations avec Talanvor, il n'avait jamais été question de ça, mais Perrine s'y attendait.
« Il faut y aller, » dit-il en secouant les rênes de trotteur, « avant qu'elle pense que c'est nous qui ne viendrons pas. »
Anora réussit à approcher de nouveau de Berelaine. Très vive, elle posa une main sur le bras de la première dame avant qu'elle ait talonné sa jument.
« Laisse-moi t'accompagner, Berelaine. Tu auras besoin de mes conseils. Les négociations de ce genre sont ma spécialité. Les Séanchaniens ont sûrement appris à reconnaître une Aes Sedai, tu ne crois pas? Je doute qu'ils négocieraient avec toi. En plus, très cher, tu dois rester pour aider Maître Grady. »
De petits points roses apparurent brièvement sur les joues de la sœur et elle pinça les lèvres. Pour qu'elle accepte d'obéir à Grady, il avait fallu une intervention des matriarches. De quelle nature? Perrine préférait ne pas le savoir. D'autant plus qu'Anora tentait de se défiler depuis le départ du camp.
« Tu restes aussi, »
dit Perrine, lorsque Aram fit mine de talonner son cheval.
« Ces derniers temps, tu t'énerves facilement, et je ne veux pas que tu fasses une gaffe. L'enjeu, c'est la vie de Fail. »
La stricte vérité. Inutile de préciser qu'il s'agissait aussi d'empêcher Massema d'avoir un rapport complet sur la rencontre.
« Tu as saisi ?»
De la déception se mêla à l'odeur d'Aram, mais il hocha la tête à contre-cœur et posa les mains sur le pommeau de sa selle. S'il idolâtrait Massema, il aurait préféré mourir 100 fois plutôt que mettre Fail en danger. Délibérément, en tout cas. Ce qu'il faisait sans s'en rendre compte était une autre affaire. Arganda sur sa droite, Berelaine et Galen sur sa gauche, Perrine sortit du bosquet. Les portes-étendards suivirent, 10 gardes-ailés et 10 lanciers leur emboîtant le pas. Également en colonne, les Séanchaniens se mirent en mouvement. Talanvor entre les deux chefs du détachement, l'un perché sur un cheval rouant et l'autre sur un bai. Sur le tapis d'herbe, les sabots ne faisaient presque pas de bruit. Alentour, la forêt se murait dans le silence, même pour les oreilles hors du commun de Perrine. Pendant que les gardes-ailés et les lanciers se déployaient, la plupart des Séanchaniens en armure peinte les imitèrent. En approchant avec Berelaine, Perrine vit mieux les deux officiers. Sur le casque laqué qui ressemblait tant à une tête d'insecte, l'un portait 3 fines plumes bleues et l'autre 2. Bien entendu, la Suldane et la Damane suivaient le trio. Les deux groupes s'arrêtèrent au milieu de la prairie, gardant entre eux une distance de 6 pas. Alors que Talanvor s'écartait, les deux Séanchaniens portèrent à leur tête des mains aux gantelets peints comme leur armure, puis ils retirèrent leur casque. L'officier aux 2 plumes se révéla être un vétéran blond au visage couvert de cicatrices. Bizarrement, il semblait plutôt amusé par la situation, mais ce qui intéressait Perrine, c'était son collègue, ou plutôt sa collègue. Monté sur un formidable cheval de guerre, la femme était incroyablement grande et large d'épaule, mais fine de taille et plus jeune du tout. Les cheveux noirs mais les tempes argentées, elle arborait 2 cicatrices seulement sur son visage d'ébène. Une sur la joue gauche et l'autre sur le front, qui s'étendait jusqu'à son sourcil droit. Pour certains, la valeur était égale au nombre de cicatrices. Aux yeux de Perrine, en avoir peu était un signe de compétence et d'efficience. Dans la brise, il capta l'odeur sereine et confiante de la Séanchanienne. Très calme, elle laissa son regard errer sur les 2 étendards, en s'attardant sur l'aigle rouge avant de revenir sur le faucon doré de Mayenne. Mais elle se concentra très vite sur Perrine. Impassible, elle ne réagit pas en découvrant ses yeux jaunes, mais une note dure et tranchante se mêla à son odeur. Quand elle vit le lourd marteau de forgeron glisser dans le ceinturon du jeune seigneur, le phénomène s'accentua.
« Voici Perrine Tebachere Aibara, » dit Talanvor, « seigneur de 2 rivières et suzerain de la reine Aliandre du Gealdan. »
Selon Talanvor, les Séanchaniens étaient très à cheval sur le protocole. À dire vrai, Perrine n'aurait pas juré que ce cérémonial n'était pas plutôt lié aux coutumes pompeuses d'Andorre. À moins que Talanvor ait tout inventé. Ce gaillard en était bien capable.
Et voici Berelaine sur Pindrag Pyron, première dame de Mayenne, bénie de la lumière et haute chère de la maison Pyron.
S'inclinant à l'intention de Berelaine et Perrine, Talanvor désigna la Séan Chanienne.
Et voici Tylee Kirgan, générale de bannière et fidèle servante de l'impératrice. À ses côtés, le capitaine Bakayar Mishima, lui aussi au service de l'impératrice.
S'inclinant une dernière fois, Talanvor fit volter son cheval et alla se poster près des portes-étendards. L'air au moins aussi sinistre qu'Aram, il diffusait pourtant une puissante senteur d'espoir.
« Je suis ravi qu'il ne t'ait pas présenté comme le roi des loups, monseigneur, »
dit Tylee. Avec l'accent traînant et la façon d'avaler les mots de la Séan Chanienne, Perrine dut faire un effort pour comprendre.
« Sinon, j'aurais pensé que l'heure de Tarmon Gaidon avait sonné. Connais-tu les prophéties du dragon ? Quand le roi des loups portera le marteau, les derniers jours arriveront. Alors le renard épousera le corbeau et les trompettes guerrières souffleront. Pour ma part, je n'ai jamais compris la seconde phrase. Qu'en penses-tu, noble dame ? Sur Pindrag, est-ce une façon de dire que tu descends de la lignée Pindrag ? Ma famille a pour ancêtre Arthur Pindrag Tanréal, oui,
répondit Berelaine, le menton pointé. Dans la brise, Perrine sentit une flambée de fierté au milieu des effluves floraux et de la patience. D'un commun accord, il était établi que Perrine se chargerait des négociations. Jeune et belle dirigeante, Berelaine était là pour impressionner les Séanchaniens et ajouter du poids aux propos de Perrine. Mais bien entendu, il aurait été insultant de se dérober à une question directe. Comme si c'était exactement la réponse qu'elle attendait, Tylee hocha la tête.
« Voilà qui fait de toi une lointaine cousine de la famille impériale. Nul doute que l'impératrice, puisse-t-elle vivre éternellement, saura t'honorer. Tant que tu ne revendiqueras pas l'empire d'Eldo Faucon, bien entendu. » « Tout ce que je revendique, c'est Mayenne, »
répliqua Berelaine, superbe de fierté.
« Une patrie que je suis prête à défendre jusqu'à mon dernier souffle.
Je ne suis pas venu pour parler des prophéties d'Eldo Faucon ou de l'impératrice, »
lâcha Perrine. Pour la deuxième fois en très peu de temps, des couleurs se formèrent dans sa tête, mais il les en chassa. L'heure n'était pas à ces choses-là. Lui, le roi des loups ? Si un loup en avait été capable, son vieil ami sauteur aurait éclaté de rire en entendant ça. En fait, tous les loups du monde auraient bien rigolé. Pourtant, Perrine frissonna. Jusque-là, il ignorait qu'on le mentionnait dans les prophéties. Et son marteau annonçait l'ultime bataille ? Mais rien n'avait d'importance à part Fail. À n'importe quel prix, il fallait la libérer. Ça passait avant tout.
« Pour cette rencontre, » dit Perrine, « nous nous étions mis d'accord sur 30 hommes par camp. Des deux côtés, la forêt est truffée de soldats séanchaniens. »
Et de partout, elle déborde d'hommes à toi, »
fit Mishima avec un sourire proche du rictus, l'effet de la balafre qui mordait sur ses lèvres.
« Sans une kyrielle d'éclaireur, tu n'aurais pas repéré nos forces. »
L'accent de l'officier était encore pire que celui de sa supérieure. Perrine garda le regard rivé sur Tylee.
« Tant que ces forces seront là, nous risquerons un accident. Je ne veux pas ce genre de choses. Mon seul désir, c'est d'arracher Fail aux griffes des Shaido. »
« Comment proposes-tu que nous évitions les accidents ?»
demanda Mishima en jouant distraitement avec ses rênes. On aurait juré que la question, pour lui, n'avait rien d'urgent. Apparemment, Tylee semblait contente de le laisser parler pendant qu'elle observait les réactions de Perrine.
« Si nous renvoyons nos hommes en premier, sommes-nous censés te faire confiance ?»
demanda-t-elle pourtant.
« Et si tu t'y collais, te fierais-tu à nous ? Dans les hautes sphères, tous les chemins sont pavés de dagues. Voilà qui ne laisse guère de place à la confiance. Bien entendu, nous pourrions donner en même temps l'ordre à nos forces de se retirer, mais une des parties en présence risquerait de tricher. »
Perrine secoua la tête.
« Tu vas devoir me faire confiance, général de bannière. Je n'ai aucune raison de t'attaquer ou de chercher à te capturer. Même chose pour toi ? Franchement, j'ai l'ombre d'un doute. Détenir la première dame de Mayenne voudrait bien une petite félonie. »
Berelaine eut un petit rire. Le moment était venu d'utiliser la branche. Pas seulement pour forcer les Séanchaniens à sortir de la forêt les premiers, mais pour les convaincre que Perrine leur proposait une aide dont ils avaient vitalement besoin. Le jeune seigneur mit la branche à la verticale, devant lui.
Je suppose que tes soldats sont bons. Même s'ils ont combattu les Trollocs et les Shaido, sans avoir à rougir du résultat, les miens n'ont rien de militaire.
Saisissant la branche, Perrine la leva au-dessus de sa tête, la partie dénudée vers le haut et bien visible par les deux camps.
Mais ils ont l'habitude de chasser des lions, des léopards et des lynx qui descendent des montagnes pour décimer nos troupeaux. Dans des forêts très semblables à celle-ci, ils n'ont pas peur non plus des sangliers et des ours.
Quand deux flèches s'y plantèrent presque simultanément, la branche faillit s'envoler des mains de Perrine. Très calme, il baissa les bras pour bien montrer les deux projectiles, dont la pointe avait traversé le bois. Pour une si petite cible, 300 pas, c'était sacrément loin. Mais il avait choisi John Dean Baran et Jory Congar, ses deux meilleurs archers.
Si nous en venons là, tes hommes ne verront même pas qui leur tire dessus. Et vos armures ne vaudront rien face aux projectiles d'un arc long de deux rivières. Mon souhait, c'est que nous évitions ça.
Mobilisant toutes ses forces, Perrine propulsa la branche vers le ciel.
Du blabla !
Rugit Mishima. Tout en ne quittant pas des yeux Perrine et la branche, l'officier essaya de dégainer sa lame sans perdre pour autant le contrôle de son cheval. Glissant du pommeau de sa selle, son casque tomba dans l'herbe. En revanche, Tali n'esquissa pas un geste vers son arme. Tirant sur ses rênes, elle aussi tenta de voir Perrine et la branche en même temps. Quand elle constata que c'était impossible, elle choisit de suivre la trajectoire de la branche, à présent à près de 80 pieds au-dessus des cavaliers. Si brûlante que Perrine crut sentir roussir ses sourcils, une lance de flamme enveloppa la pauvre branche. Pour s'abriter les yeux, Berylaine mit une main en visière. Le front plissé, Tylee paraissait de plus en plus pensive. Quand les flammes se dissipèrent, en quelques secondes, il ne restait plus de la branche qu'un nuage de cendres dispersé par le vent. Une partie de ces cendres s'écrasèrent dans l'herbe en même temps que deux étincelles. Presque aussitôt, des flammes rugissantes crépitèrent au-dessus du sol. Dans l'assistance, même les destriers en grognèrent de peur. Tentant d'échapper au contrôle de sa cavalière, la jument de Berylaine se débattit sauvagement. Lâchant un juron, il aurait dû penser aux étincelles produites par les têtes de flèches, Perrine fit mine de sauter à terre pour aller étouffer le feu. Avant qu'il ait passé la jambe gauche sur le flanc droit de Trotteur, les flammes s'éteignirent, laissant quelques fins tentacules de fumée.
« Très bien joué !»
souffla la Soul Dame en tapotant la tête de sa compagne.
« Nori est une formidable Daman !»
La prisonnière vêtue de gris sourit timidement. Malgré ses propos triomphants, la Soul Dame semblait inquiète.
« Ainsi !»
intervint Tylee.
« Tu as avec toi une Marat, enfin, une Aes Sedai. Une seule ou plusieurs ? Qu'importe. Celles que j'ai vues ne m'ont pas laissé d'impérissables souvenirs. Ce n'était pas le tissage de feu d'une Marat Daman, »
dit calmement la Soul Dame. Sans bouger un cil, Tylee dévisagea Perrine.
« Un Ashaman, alors ? »
lâcha-t-elle, et ce n'était pas une vraie question.
« Seigneur, tu commences à m'intéresser. »
Dans ce cas, un dernier détail te persuadera peut-être. Todd, enroule ton étendard autour de sa hampe, puis amène-toi par ici.
N'entendant aucun bruit de sabot dans son dos, Perrine regarda derrière lui. Le regard halluciné, Todd le dévisageait comme s'il avait perdu l'esprit.
Todd !
S'ébrouant, Todd enroula l'aigle rouge autour de sa hampe. Puis, l'air toujours aussi malheureux, il vint au niveau de Perrine et lui remit son trésor. Ensuite, il resta immobile, une main comiquement tendue, comme s'il espérait que l'étendard reviendrait vers lui de son propre chef. L'étendard tendu comme un présent, Perrine avança en direction de Sehan Shania.
« Général de Bagnères, le territoire de Deux Rivières était jadis le cœur de Manéterène. Le dernier souverain de ce royaume est mort au combat, à l'endroit même où Champ-des-Mondes, mon village natal, jaillit un jour du sol aride. Depuis, Manéterène coule dans le sang de tous les petits gars de Champ-des-Mondes. Mais les Shaido détiennent ma femme, et pour la libérer, j'abandonnerai toute prétention de ressusciter ma nation. Dans le même ordre d'idées, j'accepterai n'importe quel serment que tu voudrais me faire prêter. Si je luttais pour la renaissance de Manéterène, ce serait une épine dans le pied de l'Empire Séanchanien. Imagine, tu pourrais être l'héroïne qui l'a empêché sans verser une goutte de sang. »
Derrière Perrine, quelqu'un gémit de désespoir. Todd crut reconnaître le jeune seigneur. Soudain, la brise changea de direction et devint une tempête de sable si puissante que Perrine dut s'accrocher de sa main libre à sa selle pour ne pas en basculer. Alors que sa veste et sa chemise semblent devoir lui être arrachées par ses bourrasques, il se demanda d'où venait le sable. Dans la forêt, le sol était tapissé de feuilles mortes, et ce typhon empestait le soufre, une odeur assez violente pour brûler les narines d'un homme. La bouche ouverte, les chevaux secouaient la tête, mais les rugissements du vent couvraient leurs cris de terreur. Après quelques secondes, la tempête cessa, cédant la place à la brise qui soufflait dans la direction opposée. Toujours secoués, les chevaux hennirent et renâclèrent, les yeux ronds de terreur. Quand Perrine flatta l'encolure de Trotteur et le rassura de la voix, ça n'eut quasiment aucun effet. Tylee fit un étrange geste et marmonna.
« Que soient bannies les ténèbres !»
Puis elle continua sur un ton normal.
« Au nom de la lumière, d'où venait ce vent ? Chez nous, on raconte qu'il se passe des choses bizarres sur ce continent. Ou était-ce une autre démonstration visant à nous convaincre, Seigneur Perrine ?»«
Pas du tout !»
répondit Perrine du fond du cœur. Néald avait quelques talents en matière de climat, c'était connu. Pas Grady.
Mais qu'importe la provenance de cette tempête,
ajouta-t-il. Tylee dévisagea pensivement son interlocuteur, puis elle hocha la tête.
Qu'importe,
répéta-t-elle, plus que dubitative.
Nous avons entendu des récits au sujet de Manet Terren. Une épine dans le pied, dis-tu? Oui, ce serait ça. Mais pour quelqu'un qui ne porte pas de bottes. La moitié de la Madicia parle de cet étendard et de toi. Le sauveur qui redonnera vie à Manet Terren et libérera la Madicia de notre joug. Mishima, sonne la retraite!
Sans hésitation, l'officier blond saisit la courte corne droite qui pendait à son cou au bout d'un cordon rouge. Soufflant quatre notes, il répéta deux fois cette séquence, puis laissa retomber son instrument.
J'ai rempli ma part du marché, dit Tylee.
Perrine renversa la tête en arrière et cria à s'en casser les cordes vocales.
« Danil ! Tel ! Quand le dernier Séanchania aura disparu de la forêt, rassemblez tous les hommes et allez rejoindre Grady !»
Malgré son gantelet, Tylee s'enfonça le petit doigt dans l'oreille et fit mine de la déboucher.
« Tu as un organe puissant !»
lâcha-t-elle railleuse. Sur cet ultime pic, elle accepta enfin l'étendard que Perrine n'avait jamais cessé de lui tendre malgré la tempête. Si elle ne baissa pas les yeux dessus, sa main caressa un instant la relique. Un réflexe inconscient, peut-être.
« À présent, Seigneur Perrine, »
dit-elle,
« qu'as-tu à me proposer qui puisse être utile à mon plan ?»
Jouant les acrobates, Mishima se pencha, une cheville enroulée autour du pommeau de sa selle, et réussit à ramasser son casque, que le vent avait fait rouler assez loin de lui. De la forêt monta un chant d'alouette, quelques notes seulement, auxquels plusieurs autres firent écho. Obéissant, les Séanchaniens cachés se retiraient. Avaient-ils été eux aussi malmenés par le vent? Une question sans importance.
« Pas autant d'hommes et de loin que tu en as déjà, »
reconnut Perrine, parfaitement honnête.
« Mais j'ai des achamans, des Aes Sedai et des matriarches capables de canaliser. Tu auras besoin de cette force de frappe. »
Tylee voulut parler, mais il leva une main.
« Tu devras jurer de ne pas leur mettre un collier. »
Perrine regarda ostensiblement la Souldame et sa Damane. La Souldame ne quittait pas Tylee des yeux, attendant ses ordres. En même temps, elle caressait les cheveux de sa compagne comme on le fait pour apaiser un chat nerveux. De fait, Nori semblait sur le point de ronronner. Par la lumière, quelle bande de fous!
« Je veux ta parole que ces gens n'auront rien à craindre de toi. Même chose pour tous ceux dans le camp ennemi qui portent une tenue blanche. La plupart ne sont pas des Shaido de toute façon. » Et parmi eux, à ce que je sais, les rares Aiel sont des amis à moi.
Tylee secoua la tête.
Tu as d'étranges amis, Seigneur. Sache que nous avons trouvé des Kérienniens et des Amadiciens avec des bandes de Shaido, et que nous les avons toujours laissés partir. Cela dit, les Kérienniens, le plus souvent, étaient trop désorientés pour savoir que faire de leur peau. Les seuls porteurs de blanc que nous gardons, ce sont des Aiel. Contrairement aux autres, ces Gaishain-là font de merveilleux dakovalé. Pourtant, je consens à épargner tes amis. Même chose pour les Aes Sedai et les Achaman. Mettre un terme à ce rassemblement de Shaido est très important. Dis-moi où est leur camp, et je commencerai à te faire une place dans mon plan.
Perrine se gratta pensivement à côté du nez. il semblait très peu probable que beaucoup de ces Gaishin soient des Shaido, mais il n'allait certainement pas le dire. Qu'ils aient donc une chance de recouvrer la liberté quand leur an et un jour de servitude seront terminés.
Il faudra que ce soit mon plan, j'en ai peur. Sevana sera une épine difficile à extraire, mais j'ai imaginé une stratégie. Tout d'abord, elle a avec elle près de 100 000 Shaido, et d'autres continuent à arriver. Tous ne sont pas des Algaï Tsitswai, mais chaque adulte sait se servir d'une lance.
Sevana,
fit Tai Li avec un sourire ravi.
Ce nom, nous l'avons déjà entendu. J'adorerais livrer Sevana des Jumai Shaido à notre capitaine général.
Le sourire disparut.
100 000, c'est plus que j'attendais, mais pas de quoi me dépasser. En Amadicia, nous avons combattu ces Aiel. Pas vrai, Mishima?
S'en revenant avec son casque, l'officier éclata d'un rire sans joie.
Oh, pour sûr, général de Bagnère. Ce sont des guerriers féroces, disciplinés et compétents, mais pas invincibles. Il nous a suffi d'encercler une de leurs bandes avec seulement 2 ou 3 Daman dans nos rangs et de la harceler jusqu'à ce qu'elle capitule. Comme les guerriers ont leur famille avec eux, ce n'est pas très beau à voir, mais ce point faible les condamne.
Si j'ai bien compris,
dit Perrine à Tai Li,
tu disposes d'une 10aine de Daman. Tu crois que ça suffira contre 300 ou 400 matriarches capables de canaliser?
Tai Li plissa le front.
Des matriarches qui canalisent? Tu as évoqué ce sujet, je crois. Toutes les bandes que nous avons écrasées comprenaient des matriarches, mais aucune ne maniait le pouvoir.
Tous les Shaido qui le peuvent sont avec Sevana,
expliqua Perrine.
300 femmes, et plus probablement 400. Les matriarches qui me soutiennent sont sûrs de cette fourchette.
Tai Li et Mishima se consultèrent du regard. Puis l'officier se rembrunit, tandis que sa supérieure soupirait.
« Eh bien, »
fit Tai Li,
« quels que soient nos ordres, n'espérons plus en finir pacifiquement. Si je dois m'excuser devant l'impératrice, puisse-t-elle vivre éternellement, la fille des 9 lunes en sera perturbée, et plus que probablement, il sera obligatoire que je m'excuse. »
La fille des 9 lunes? Une Séanchanienne très haut placée dans la hiérarchie, sans doute. Mais en quoi cette affaire risquait-elle de la perturber? Mishima fit la grimace, un spectacle à glacer les sangs, à cause des multitudes de cicatrices qui se plissaient sur son visage.
« À la bataille de Semalaren, » dit-il. « Selon les historiens, il y avait 400 Daman dans chaque camp, et ce fut une boucherie. La moitié des forces impériales tombées au champ d'honneur, et 3 rebelles sur 4 allongés pour l'éternité.
« Quoi qu'il en soit, Mishima, il faut le faire. Sinon... quelqu'un d'autre s'en chargera. Tu ne seras peut-être pas obligé de t'excuser, mais pour moi, c'est joué d'avance. »
Au nom de la lumière, qui avait-il de si extraordinaire à s'excuser? Dans l'odeur de Tai Li, la résignation dominait.
Hélas, il faudrait des semaines, voire des mois, pour réunir assez de soldats et de Daman en vue de régler cette histoire. Merci de m'avoir proposé ton aide, Seigneur Perrine. Je n'oublierai pas.
Tai Li leva l'étendard enroulé.
« Puisque je ne peux pas participer à ton plan, tu voudras sans doute récupérer ton bien. Permets-moi un conseil, jeune seigneur. L'armée toujours victorieuse a peut-être d'autres chats à fouetter pour le moment, mais elle ne laissera personne en profiter pour essayer de ceindre une couronne. Nous entendons conquérir ce continent, pas le diviser en parcelles de plus en plus petites. « Ce que nous voulons, »
intervint Berelaine,
« c'est garder nos nations. »
Elle fit avancer sa monture en direction de Séanchanien. Éprouvée par la tempête de sable, la jument renâcla, forçant sa cavalière à la reprendre en main sans douceur. Dans le parfum de Berelaine, Perrine crut reconnaître les effluves puissants d'une louve qui se bat pour défendre son compagnon blessé.
« Moi, »
fit Perrine,
« j'ai entendu dire que ton armée toujours victorieuse porte très mal son nom. On raconte que le dragon réincarné vous a flanqué une belle correction dans le sud du continent. Ne va surtout pas croire que Perrine et Aibara sont incapables de l'imiter. » Lumière.
Se morigéna intérieurement Perrine.
Dire que je redoutais le franc-parler d'Aram. Le seul ennemi que je veux vaincre, c'est Sevana et ses Shaido,
affirma-t-il, en luttant contre l'image qui tentait de se former dans son esprit. Pour se détendre, il croisa les mains sur le pommeau de sa selle. Trotteur semblait calmé. S'il sursautait encore de temps en temps, il ne roulait plus de gros yeux.
Il y a une façon de procéder qui ne provoquera pas de désordre et te dispensera sans doute de t'excuser.
Puisque cette idée obsédait Tai Li, pourquoi ne pas en tirer parti?
La fille des neuf lunes pourra dormir sur ses deux oreilles. Comme je l'ai déjà dit, j'ai tout prévu. Selon Talanvor, vous disposez d'une potion qui détruit la résistance physique et mentale des femmes capables de canaliser.
Un long moment, Tai Li dévisagea Perrine, puis elle posa l'étendard enroulé sur ses genoux.
« Pas seulement des femmes, »
précisa-t-elle.
« Plusieurs hommes, à ce qu'on dit, ont été soumis ainsi. Mais comment proposes-tu d'en faire boire à 400 femmes défendues par 100 000 guerriers ?»«
En leur en donnant sans qu'elles sachent ce que c'est. Pour ça, il me faudra d'énormes quantités de feuilles, des chariots pleins de caisses. Comme on ne pourra pas faire chauffer le volume d'eau correspondant, ce sera une infusion légère. »
Tai Li s'autorisa un petit rire.
Un plan audacieux, seigneur. L'herboristerie qui vend cette plante doit avoir de très gros stocks, mais elle est très loin d'ici, en Amadicia, presque au Tarabone en réalité. Pour en avoir plus que quelques livres, je devrais dire pourquoi à un très haut gradé. Aussitôt, s'en sera fini de la discrétion.
Les achamans, dit Perrine, ont une façon bien à eux de voyager. Un moyen d'avaler des centaines de lieues en un pas. Pour nous procurer les herbes, ça pourrait être utile.
De son gantelet gauche, il tira une feuille pliée et constellée de taches de graisse. En la lisant, Tai Li arqua démesurément les sourcils. Perrine se récita le texte qu'il avait mémorisé.
Le porteur de cette note est sous ma protection. Au nom de l'impératrice, puisse-t-elle vivre éternellement, qu'on lui fournisse toute l'assistance dont il aura besoin afin de servir l'Empire, et qu'on n'en parle à personne, à part moi. Par son sceau, Surot Sabel Meldarat, haute dame d'Assin Bayar et de Bar Saba.
Perrine n'aurait su dire qui était exactement cette haute dame, mais pour rédiger des ordres pareils, elle devait avoir une sacrée place dans la hiérarchie. Au fond, la fille des neuf lunes, c'était peut-être elle. Après avoir tendu le document à Mishima, Tai Li dévisagea Perrine, qui capta de nouveau son odeur puissante et déterminée.
Des Aes Sedai, des achamans, des matriarches, tes yeux, ce marteau, et maintenant, ce sauf-conduit. Qui es-tu, Perrine Aibara?
Surot déguisé, marmonna Mishima entre ses dents.
Un homme qui veut retrouver sa femme,
rappela Perrine.
Et qui pour ça est prêt à négocier avec le ténébreux.
Après avoir dit ça, il évita délibérément de regarder la Souldame et sa damane. Entre ce qu'il tentait de faire et négocier avec le ténébreux, la différence semblait mince.
« Alors, général de Bagnères, top là ?»